Transatlant Queer, des nouvelles d'outre-mer.
Allô Christophe Gérard, à Paris, comment ça va?
Ça va bien, merci, et toi?
Oui, ça va bien, on va commencer la chronique, on va parler une nouvelle fois de Viktor Orban.
Eh oui, une nouvelle fois avec une nouvelle qui inquiète en Europe, hein, puisque la Hongrie et Viktor Orban veulent interdire la marche des fiertés à Budapest, qui est prévue le 28 juin prochain. Une annonce qui, certes, est inquiétante, mais finalement n'est pas une surprise. Comme tu le disais en annonce, il est habitué des faits,
C'est un
le monsieur.
abonné, à nos communautés, ou du moins à la haine de nos communautés. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus là, sur cette nouvelle?
Ben, en fait, Orban utilise depuis plusieurs années, on le sait, hein, le prétexte de la protection des valeurs traditionnelles pour attaquer la communauté LGBTQIA+. Et cette fois, c'est lors de son discours annuel sur l'état de la nation, le 22 février dernier, qu'il a déclaré, je conseille aux organisateurs de ne pas prendre la peine de préparer le défilé cette année. C'est une perte d'argent et de temps. Il veut donc interdire un des derniers grands événements de la visibilité queer en Hongrie.
C'est pas la première fois, là, on disait que le gouvernement hongrois s'en prend aux droits de nos communautés.
Oui, son but, hein, il est clair, c'est réduire justement les droits de notre communauté. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on appelle la Budapest Pride existe depuis maintenant 1997 et elle attire chaque année des milliers de personnes. Hein. Donc, compte tenu de la situation, cette marche, c'est pas seulement un défilé festif, c'est un véritable acte de résistance dans un contexte de répression croissante. Une communauté que le gouvernement d'Orban veut réduire au silence grâce à des lois de plus en plus restrictives.
Et c'est quoi l'argument d'Orban cette fois-ci là pour justifier l'interdiction?
Bah, c'est toujours les mêmes, hein. Il parle de protéger les mineurs et de défendre les valeurs traditionnelles, allant jusqu'à qualifier la marche des fiertés de propagande nuisible. Mais derrière cette répression, et selon les opposants d'Orban, se cache une stratégie politique qui est évidente, à savoir satisfaire l'électorat conservateur pour détourner l'attention des graves difficultés économiques de la Hongrie. À noter que les prochaines élections législatives auront lieu en avril 2026, pardon. C'est donc une manœuvre politique, hein, en plus d'une atteinte aux libertés fondamentales, une tentative d'interdiction qui s'inscrit dans un cadre plus large, puisque, on le sait, il a déjà mis en place des lois interdisant notamment la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs, largement inspiré des lois en vigueur en Russie, la Russie de Poutine. Il a également interdit la reconnaissance légale des personnes transgenres et il empêche également l'adoption par des couples de même sexe. Donc l'interdiction de la Budapest Pride, ça s'inscrit dans une logique de répression accrue de la communauté LGBTQIA+ en Hongrie.
Mais est-ce que cette marche sera réellement interdite?
C'est difficile à le dire, hein, puisque la seule chose qu'on puisse dire pour l'instant, c'est que Victoria Radvani, qui est la présidente de la Budapest Pride, a assuré au magazine Têtu que la marche aurait bien lieu. Elle a déclaré que qu'on soit 100 ou 35 000, on marchera évidemment le 28 juin. Nous utiliserons pour cela toutes les voies légales. Selon elle, la marche des fiertés est protégée par la Constitution, par les libertés d'expression et de se rassembler. Et elle estime qu'une interdiction de la Pride signifierait que la Hongrie n'est plus véritablement une démocratie. Elle ajoute, nous battons, pardon, pas seulement pour la communauté LGBTQIA+, mais aussi pour le droit de tous les Hongrois à pouvoir manifester.
Et on peut parler donc d'une attaque systématique contre les droits de nos communautés. Et du côté international, est-ce qu'il y a eu des réactions à cette nouvelle?
Oui, assez récemment, hein, puisque plusieurs personnalités politiques et parlementaires européens ont réagi en signant une tribune de soutien à la Budapest Pride. Ce sont plus de 150 personnes pour l'instant qui ont dénoncé cette atteinte aux libertés fondamentales. Elles appellent l'Union européenne à agir, même si pour l'instant, il faut bien le dire, Bruxelles reste assez frileux et prudente. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'avec de telles annonces, la Hongrie s'éloigne de plus en plus des valeurs de l'Union européenne.
Si la Hongrie persiste dans cette voie, qu'est-ce qui pourrait se passer?
Bah, l'Union européenne pourrait prendre des mesures et des sanctions, y compris des sanctions financières. Mais finalement, Orban joue sur l'ambiguïté et il sait que l'Union européenne est divisée sur les questions queer. Et ils se sont poussés des ailes, il faut bien le dire aussi, depuis l'élection de Trump. Cette volonté d'interdiction envoie un message, en tout cas terrible, pour la communauté LGBTQIA+ en Hongrie, qui se sent de plus en plus isolée.
Bon, on va continuer notre voyage à travers l'Europe avec un discours particulièrement touchant prononcé par une élue espagnole sur l'acharnement contre les personnes trans.
Oui, hein, le 21 février dernier, Carla Antonelli, qui est la première femme transgenre élue députée régionale en Espagne, a prononcé un discours très poignant à l'Assemblée de Madrid. Elle réagissait en fait à une tentative du parti d'extrême droite Vox de supprimer une loi protégeant les personnes transgenres.
Et qu'a-t-elle dit donc dans son discours?
Elle a dénoncé l'obsession de certains à questionner l'existence et l'identité des personnes trans. Elle a déclaré notamment, hein, tout le monde veut savoir qui nous, si nous sommes trans ou non, ce que nous sommes ou ce que nous ne sommes pas, si nous avons des orgasmes, si nous sommes heureux, si nous nous sommes fait opérer, si nous nous mutilons. Alors son discours a été, a fait le tour des réseaux sociaux et c'est devenu un symbole, de la lutte pour les droits des personnes trans, particulièrement remis en cause, on le sait, hein, depuis quelque temps.
Un moment fort. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire justement de Carla Antonelli?
C'est une figure historique, hein, de la lutte pour les droits des personnes trans en Espagne. Elle est née en 1959 à Tenerife et avant de se lancer en politique, elle a eu une carrière d'actrice en s'illustrant notamment dans plusieurs séries télé. Et en 2011, elle est devenue la première femme trans à siéger dans une législature en Espagne sous les couleurs du Parti socialiste ouvrier espagnol. Elle a joué d'ailleurs un rôle prédominant et clé dans l'adoption de la loi espagnole sur l'identité de genre. Il faut savoir que, en Espagne, il y a une loi qu'on appelle loi d'autodétermination qui permet d'avoir un changement d'état civil et de genre simplifié par rapport à la France où il faut passer par un jugement notamment.
Tout à fait, on avait parlé le mois dernier. Le contexte de son discours était particulier quand même, hein?
Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est assez intéressant pour un pays à la base catholique, hein, c'est qu'entre 2012 et 2022, l'Espagne a adopté 19 lois régionales pour protéger les droits des personnes LGBTQIA+, dont 7 lois spécifiquement pour la communauté trans. Mais des partis d'extrême droite comme Vox cherchent à revenir sur ces avancées. C'est ce qui a motivé l'intervention de Carla Antonelli, hein. Donc, elle a lancé un message fort en faveur des droits des personnes trans avec une phrase qui a marqué l'intention, puisqu'elle a dit « Laissez-nous tranquilles pour l'amour de Dieu et que ce soit clair, nous ne retournerons pas dans l'ombre. » Un appel vibrant, hein, à la dignité, à la reconnaissance des droits des personnes trans, un message puissant, faut le dire, porté par son courage et son engagement et qui prend tout son sens, dans le contexte mondial actuel.
On peut rester dans le contexte mondial actuel, mais on va parler peut-être de quelque chose qui se passe en France. On se rappellera de Thomas Joly, qui était le directeur artistique des Jeux olympiques de Paris, qui a subi là, des attaques de cyberharcèlement, un procès qui a eu lieu la semaine dernière. Peux-tu nous dire ce qui s'est passé? Donc, revenons sur les faits donc, de juillet dernier.
Ouais, donc en juillet dernier, la cérémonie d'ouverture des JO a déclenché une vague de haine via les réseaux sociaux, notamment en raison d'un tableau artistique qui mettait en scène des drag queens. Alors les messages haineux, parfois violents et homophobes, ont conduit Thomas Joly à porter plainte et le procès des 7 prévenus accusés de cyberharcèlement a eu lieu le 5 mars dernier.
Et de quel profil avaient ces prévenus, justement?
Bah, des profils assez divers, hein, puisqu'ils sont âgés entre de 22 à 79 ans, donc toutes les tranches d'âge. Par contre, il y avait un point commun, c'est l'expression impulsive, on va dire, de haine sur les réseaux sociaux. Et parmi eux, un ancien candidat du parti Reconquête d'Éric Zemmour, qui a tenté de justifier ses propos par une soi-disant atteinte à la religion catholique.
Et quelles peines ont été requises?
Alors, le parquet a requis des peines qui vont de 3 mois à 8 mois de prison avec sursis et des stages de citoyenneté. L'objectif est de rappeler que la liberté d'expression a des limites, surtout quand il s'agit de discours haineux en ligne.
Oui, ici au Québec, il y a un groupe qui s'était formé pour dire que la liberté d'expression n'égalait pas la liberté d'oppression. Hein, c'est quand même quelque chose. Mais vous, en France, vous avez une loi qui n'existe pas ici, c'est-à-dire une loi contre ces expressions de haine dans la cyberintimidation, ce qui n'existe pas encore au Canada.
Oui, et qui est de plus en plus utilisé, hein, et notamment avec des associations dont Stop Homophobie, dont je parle assez régulièrement, ou Mousse, qui porte plainte pour tout ce qui est propos haineux en ligne notamment.
Donc, c'est un bon rappel de la responsabilité en ligne, mais c'est pas tout. On va parler d'une belle histoire pour conclure. J'aime bien ça que tous mes chroniqueurs prennent la peine de me trouver une belle histoire pour conclure nos chroniques. Alors, on va parler de solidarité en Espagne après un meurtre homophobe à La Corogne.
Oui, alors le début de l'histoire, malheureusement, n'est pas aussi heureux que la fin. Ce qu'il faut savoir, et j'en avais parlé ici, puisque le procès a eu lieu en janvier, en juillet 2021, Samuel Lewis, a été tué dans les rues de la Corogne, en Espagne, en raison de son orientation sexuelle. Mais deux migrants sénégalais, qui s'appellent Ibrahima Diack et Magat Ndiaye, ont réagi immédiatement et ont tenté de lui porter secours. Malheureusement en vain. Un geste de solidarité qui a été salué par les autorités locales, hein, puisque la ville de La Corogne les a fait fils adoptifs, donc c'est un peu citoyen d'honneur hein, pour La Corogne. C'est une distinction honorifique.
Un acte théorique, je devrais dire, malgré la modestie de ces deux hommes qui ont agi sans chercher de reconnaissance.
Oui, pour eux, hein, d'après leur déclaration, ils ont dit qu'en fait, ils avaient fait leur devoir. Hein, donc, ils ont incarné les valeurs de solidarité et de résistance à la violence. Et leur geste a été un modèle de courage et d'humanité. Il a marqué un tournant dans la lutte contre l'homophobie en Espagne. C'est un vrai pied de nez, hein, pour tous ceux qui associent souvent migrants et délinquants et crimes en tout genre. On voit que, la solidarité existe, quelle que soit la nationalité et les origines des personnes.
Il nous reste un petit peu de temps, Christophe. Je sais qu'en France, il y a beaucoup de ces discours d'extrême droite là, qui existent ici au Canada et aux États-Unis. Comment ça, les gens réagissent vis-à-vis ce qui se passe avec Donald Trump et les communautés queer chez vous?
C'est assez varié. Alors, sur les réseaux sociaux notamment, hein, on le voit, il y a énormément de commentaires haineux. Hein, j'en parlais. Donc, ils slashent notamment sur Facebook, hein, puisque maintenant, là, il n'y a plus de modération du tout des propos. Par contre, ce qui est intéressant, et ça, j'ai remarqué ça depuis l'élection de Trump, alors, je sais pas si c'est un hasard ou pas, il y a beaucoup plus de personnes qui prennent la parole face à ces discours haineux et prêchent la bonne parole pour nos communautés. C'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que les haters n'ont pas l'habitude d'être repris sur les réseaux et ils se sentent un peu perdus. Moi, j'avoue que ça m'amuse un peu.
Ah oui, ben, c'est la même chose ici. Au Canada, il y a quand même beaucoup de campagnes de boycott. Je vais en parler éventuellement à l'émission. Les gens de nos communautés maintenant annulent ou refusent de se rendre aux États-Unis en vacances. Est-ce qu'on voit la même chose en France ou en Europe?
Alors, c'est assez récent. Je sais que vous avez boycotté pas mal de produits américains,
Ben, ils nous
notamment
livrent
dans
une
les
guerre commerciale,
supermarchés.
évidemment, soit qu'on n'a pas le même choix.
Voilà. Alors, sur les voyages en eux-mêmes, pour l'instant, je n'ai pas remarqué ou lu beaucoup d'informations là-dessus. Par contre, et ça, c'est assez récent, puisqu'ils en ont parlé ce matin hein, sur les chaînes info, il y a 2 Français sur 3 qui se disent prêts à boycotter les produits américains, compte tenu de tout ce qui se passe et du discours, et des discours haineux de Trump, Musk et toute la clique.
Mais en tout cas, tout ça, c'est bien intéressant. Nous, on se reparle le mois prochain, Christophe. Merci beaucoup.
Mais je t'en prie, je te souhaite une bonne soirée. À très
Merci.
bientôt.